Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ah les artistes, quelle merveille, quel bazar, quelle ivresse, quelle magie. Que seraient les mondes sans les artistes? Un monde sans relief, sans éclat, sans fantaisie. Un monde fait de chiffres et de lignes droites et d'horaires bien ficelés. Un monde ennuyeux, disons-le franchement. La beauté et la vocation à laquelle le Créateur appelle les artistes avait l'habitude de dire Saint Jean-Paul II, preuve qu'ils ne sont pas là que pour distraire. Pour les aider dans cette vocation, existe en France la diaconie de la beauté que je vous propose de découvrir ce matin. Voilà pour cette émission, donc ce matin, à la découverte de la diaconie de la beauté. Nous sommes en ligne avec Daniel Facerias, qui est musicien et fondateur de la diaconie de la beauté avec sa femme. Bonjour. Le père Vincent Gallois, qui est curé de la basilique Saint-Sernin à Toulouse et accompagnateur de la diaconie de la beauté. Bonjour. Marine de Charin, qui est comédienne. Alors, vous avez beaucoup de titres, donc je vais sélectionner comédienne, chanteuse, professeur d'art dramatique, c'est ça?
Oui, de théâtre.
Professeur de théâtre et donc coordinatrice de la diaconie de la beauté à Toulouse. Et bonjour.
Bonjour.
Et Mireille Racine, donc vous êtes peintre, vous animez des ateliers pour enfants, adultes et personnes en difficulté, et vous êtes membre, on va dire, de la diaconie de la beauté à Toulouse. Bonjour.
Tout à fait, bonjour.
Pensez à vous rapprocher du micro. On va commencer avec vous, Daniel Facerias. Alors, la diaconie de la beauté, ça paraît pour le grand public être un peu un gros mot. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors c'est pareil, vous êtes connu dans le milieu, on va dire, chrétien. Je vous ai présenté très brièvement. Est-ce que vous pourriez, c'est toujours difficile peut-être pour un artiste, mais vous représenter un peu plus longuement et puis nous dire quelle est la genèse de cette diaconie de la beauté? Pourquoi d'une certaine manière c'est tombé sur vous?
Oui, alors donc au départ je suis musicien, donc j'ai fait une thèse sur les troubadours du XIIe siècle, pas à Toulouse malheureusement parce qu'à l'époque il n'y avait pas de musicologie à Toulouse mais à Paris, et je suis originaire donc de la région toulousaine et natif de Miramont-de-Comminges, donc c'est pas, je suis du diocèse finalement. Et à partir de là, j'ai eu une carrière de musicienne, de chanteur. J'ai fait aussi pas mal de spectacles sur la vie des saints, sur des sujets spirituels. Comme un ici à l'île de la Réunion, là j'ai fait un spectacle sur l'abolition de l'esclavage avec l'évêque du lieu. Bon voilà, et la diaconie c'est venu parce que quand j'avais une petite trentaine, j'ai eu une expérience extraordinaire avec l'aumônerie des artistes à Paris. L'aumônerie nationale des artistes était tenue par les dominicains, et moi j'étais tout fragile, tout jeune artiste, et je me suis retrouvé tout d'un coup à participer tous les mercredis à des rencontres au milieu de Madeleine Renaud, Michel Serrault, même Maurice Béjart. C'était étonnant de voir que l'Église à ce moment-là était d'une présence vraiment capitale dans ce milieu des artistes que vous avez admirablement défini.
Alors, quand,
qui est improbable.
Quand vous dites à ce moment-là, c'était quand en fait? Parce que vous êtes modeste. Mais
en
bon,
84-85.
Voilà, vous avez travaillé avec des grands artistes en France, donc c'est à ce moment-là que vous les avez fréquentés.
Oui.
Ça vous a surpris que l'Église soit présente à ce milieu-là, c'est ça que vous laissez entendre?
Oui, j'étais sidéré parce que les années 80, c'est quand même une période de remise en question de pas mal de choses, des artistes par rapport à l'Église, je parle. Et il y avait beaucoup de détachement et beaucoup d'ironie envers l'Église, et j'étais très surpris de voir que ces personnes que j'admirais participaient à des retraites au Bec et Loing, etc., avec l'aumônier des artistes. Donc il y avait une véritable, et c'est pas que de surface, hein, il y avait véritablement un enjeu dans la démarche spirituelle de l'artiste. C'est-à-dire, je me rappellerai toujours que Serrault, à cette époque-là, faisait une tournée sur Knock et le tambour de ville, et il nous expliquait que pour lui, s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas l'aumônerie des artistes, il se sentirait perdu. C'était intéressant de voir ça. Voilà.
Alors, du coup, la diaconie, donc là, vous décrivez cette période dans les années 80, mais la diaconie, quand est-ce que l'idée vous est venue?
Alors,
je crois que c'est une idée conjointe avec
un certain
Monseigneur
Ray. Avec mon épouse, et puis, c'est-à-dire qu'on a toujours travaillé ensemble tous les deux, et on a toujours eu le souhait, enfin, moi, j'avais peut-être la nostalgie de ce temps, mais de partager tout ce que nous vivions avec les artistes, c'est-à-dire d'avoir une vraie, à la fois démarche spirituelle et humaine, parce que c'est l'artiste vit une solitude assez étonnante, à la fois sur le plan économique, souvent, sur le plan humain, parce qu'il est isolé, et n'en parlons pas sur le plan spirituel, où on le voit aujourd'hui. Je viens d'avoir une expérience avec un super percussionniste qui plonge dans le New Age parce qu'il cherche et il sait pas où s'accrocher. Et donc on voit cette solitude qui est interpellante, et donc on a décidé de créer une sorte de mouvement.
Et alors quand est-ce que ce mouvement est né ? Donc je disais, il a été monté, enfin conjointement, en tout cas avec l'aide de Monseigneur Dominique Ray, donc qui est évêque de Fréjus-Toulon, oui, qui est relativement connu en France. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment tout a démarré ?
Concrètement, ça s'est passé en 2011-2012, où on a eu à cœur de cristalliser ça. Au départ, il s'agissait peut-être de trouver un lieu dans le diocèse de Toulon pour pouvoir réunir des artistes. Mais on a vu très vite que ce serait limité et qu'il fallait plutôt essayer de faire quelque chose de transversal, c'est-à-dire de toucher au niveau diocésain, par le biais des diocèses, de toucher véritablement les artistes. Alors ça ne veut pas dire que c'est une démarche qui vient du haut, c'est-à-dire de l'hiérarchie de l'Église. Non, c'est une démarche qui vient des artistes eux-mêmes, mais qui s'inscrivent dans le cadre de la vie diocésaine, en fait.
Alors, quel est le but de la diaconie de la beauté ? On l'a compris entre les lignes, mais en préparant l'émission, je tombais sur cette phrase qui, je crois, est de vous, « réconcilier les artistes et l'Église ». Alors, à qui s'adresse la diaconie et quelle est l'intention profonde de cette diaconie ?
Alors, l'enjeu, plus qu'une intention, c'est un enjeu. Je crois que l'art, aujourd'hui tel qu'on le connaît, est issu finalement de la conscience chrétienne de l'Europe. Parce que si je parle des arts plastiques, par exemple, on voit bien que toute l'histoire de l'art, elle est entre guillemets religieuse. La musique, on peut dire que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, toute forme d'art a une racine spirituelle. Et il y a eu, suite aux évolutions de la société et à l'éloignement même de cette société avec le religieux, le fait religieux, il y a eu donc véritablement une sorte de divorce entre les artistes et l'Église. Et je crois que l'enjeu, c'est que de rendre à l'Église les artistes et de rendre l'Église aux artistes. C'est-à-dire, Jean-Paul II avait essayé, il a admirablement réussi dans sa lettre aux artistes, à réexpliquer l'enjeu pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire, pour l'Église d'un côté, elle ne peut pas être sans les artistes, et les artistes ne peuvent pas être sans cette sève que l'Église donne.
Alors ça c'est votre conviction. Alors peut-être qu'on déflore un peu la suite de l'émission, mais est-ce que de fait ça marche, ça prend? Est-ce que les artistes qui ne sont pas chrétiens sont convaincus de ce que vous venez de dire, ou en tout cas est-ce que vous arrivez petit à petit à leur faire toucher du doigt?
Oui, je viens de vivre une expérience là ce week-end. Enfin, vendredi, j'étais invité par la ville du Mans, donc à venir chanter dans le cadre de leur premier festival d'art sacré. C'est étonnant. Et en fait, l'idée est venue à l'adjoint à la culture, parce qu'il avait entendu parler de la diaconie de la beauté et du festival que nous faisions à Cannes. Il a voulu faire un peu la même chose. Et j'étais très étonné de voir qu'à cette manifestation, à peu près 80% des artistes qui sont venus n'allaient plus à l'église, ou n'avaient que des rapports de très distanciés avec l'église. C'est intéressant de voir qu'en même temps, ils sont venus et ils ont fait cette démarche de s'approcher de nous.
Alors, diaconie, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi utiliser le terme diaconie ? Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça dit de l'enjeu que vous décrivez ?
Alors, diaconie, ça vient du grec diakonia, diakonos, c'est le service. En grec, il faut distinguer, il y a deux mots pour dire serviteur, il y a le mot doulos qui après a donné le sens d'esclave, et le mot diaconie qui est le service, et c'est celui-là qui sert au christianisme pour définir le serviteur. Donc et cette expression est venue, nous étions avec Dominique Ray à une rencontre liturgique qu'il avait organisée à Toulon, et il y avait là à l'époque le cardinal Canizares qui était le président du dicastère pour
la congrégation du culte divin, oui.
Voilà, c'est ça. Et On s'est mis à parler tous les trois en espagnol parce que le gardien ne parlait pas un mot de français. Et tout d'un coup, m'interrogeant sur ma vie d'artiste, il dit « Ah, ben je comprends », il dit « De même qu'il y a une diaconie pour la charité, ne faudrait-il pas faire une diaconie pour les artistes, une diaconie de la beauté ?» C'est de lui que vient cette expression et il l'a donnée comme ça, venant du cœur. Et on a rebondi avec Mgr Rey en disant « Mais voilà l'enjeu, c'est rendre la beauté, non pas simplement de manière esthétique aux artistes, mais de rendre la beauté qui est aussi une personne, qui est la personne du Christ, aux artistes, et de permettre à l'Église de redécouvrir cette dimension-là. »
Alors pour finir, avant qu'on fasse une première pause, est-ce que vous pouvez nous parler du festival? Alors j'allais dire le festival de Cannes, mais c'est pas le festival de Cannes, mais vous organisez un événement,
oui,
depuis la quatrième année, si j'ai bien compris, à Cannes.
Oui, c'est ça.
En quoi consiste cet événement et qui vient et qu'est-ce qui s'y passe?
Alors, vous avez un témoin, puisque Marine a participé l'année dernière, à la fois comme artiste...
On va lui donner la parole, rassurez-vous. Hein.
Ouf.
Voilà. Et s'agit... Il y a deux aspects dans ce festival. Il y a l'abbaye de Lérins qui est au large de... Enfin, pas au large, enfin, sur les côtes... C'est une île qui est sur les côtes de Cannes, où il y a un monastère, n'est plus vieux monastère d'Europe, où on organise une session de spirituelle pour les artistes qui veulent. Et en même temps, on invite des festivaliers. Et ensuite, sur le lieu du festival, c'est en face... L'entrée du palais, il y a l'église de Cannes, qui est partie prenante en fait sur certaines manifestations, avec notamment pour le jury œcuménique avec le festival. Et là, tous les soirs, pendant les soirées du festival, on propose des spectacles, des concerts avec un contenu un peu plus sacré, ce qui permet à la fois de proposer quelque chose aux Cannois et en même temps d'accueillir des... C'est ça le plus difficile, d'accueillir des festivaliers.
Et de fait, donc, c'est pareil, comment réagissent les festivaliers? Est-ce que beaucoup font le pas de venir vous voir? Est-ce que les choses se font assez naturellement?
Se fait naturellement. Et contrairement aux idées reçues, finalement, ces gens qui sont dans le bling-bling, ce sont peut-être ceux qui sont à l'intérieur les plus fragiles et les plus ouverts à une rencontre de ce type. Parce qu'en fait, c'est une chose qui les... qui peut-être ils ne le disent pas en surface, mais qui les touchent dans leur cœur même ou dans leur... Bon, on a beaucoup dit d'exemples, d'anecdotes, notamment d'un comédien américain qui est venu et qui a été bouleversé par... c'était un soir où Michael Lanza a donné le Stabat Mater de Pergolèse avec l'orchestre de Nice, et c'était étonnant de voir cet homme qui était assez connu... être bouleversé dans sa propre vie par le fait d'être entré dans une église à nouveau et d'avoir vu quelque chose de beau.
Et beaucoup font le pas aussi d'aller à Lérins, donc qui est cette île, donc où il y a un monastère au large de Cannes.
Oui, alors c'est un peu plus compliqué, non pas qu'ils ne veulent pas, mais le problème c'est qu'en fait, ils ont des emplois du temps un peu complexes, puisque c'est le marché du cinéma, donc on est dans des rendez-vous, des choses comme ça, mais on arrive par nos petits réseaux à entrer en relation avec certains. Et par exemple, la session, l'année dernière, il y avait 25 ou 26 sessionnistes, parce que l'hôtellerie n'est pas plus grande, et le dernier jour où l'on invite les gens du festival... On s'est retrouvé avec 50 personnes de plus, donc c'était très bien, on l'a vu. Là, c'était une chose patente, en fait, tangible.
Rappelez-nous pour finir le nom de ce festival off. Oh,
c'est le festival sacré de la beauté, et les Cannois l'appellent le off de l'âme.
Eh ben, merci beaucoup Daniel Fasserias, on va faire une première pause musicale, et puis après on va voir ce qui se vit à Toulouse. Merci beaucoup.
Seul mon bon Seigneur, qu'on vienne boire et
honneur. À toi seul, louange et bénédiction. À toi seulement ils conviennent, car le Très-Haut seul tu es, et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement frère soleil qui donne le jour. C'est par lui que tu nous éclaires, qui rayonne de splendeur. De toi très haut, bon Seigneur, il est le symbole. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Au ciel tu les as créées, précieuses et belles. Loué sois-tu pour frère vent, pour l'air nuage et mauvais temps, par lesquels à tes créatures soutien tu donnes. Sois-tu mon bon Seigneur, pour ce rôle-là précieuse, qui humblement et chastement est très utile. Loué sois-tu pour frère feu, parmi tu illumines la nuit. Il est très beau et joyeux, robuste et très fort. Seigneur, pour sur terre notre mère, c'est bien elle qui nous soutient et nous gouverne. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, divers fruits nous viennent d'elle, et les fleurs aux mille couleurs et l'herbe verte. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, pour ton amour, et supportent la douleur et les tribulations. Et bienheureux soient tous ceux qui persévéreront dans la paix, car par toi, mon bon Seigneur, seront couronnés. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, pour sœur mort corporelle, car à elle nul homme vivant ne peut échapper. Et bienheureux seront ceux-ci dans tes saintes volontés. Notre sœur, la mort, nul mal ne leur fera.
Présence.
Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin, donc à la découverte de la diaconie de la beauté. Si vous nous prenez en cours de route, ben, il est encore temps, on va vous expliquer plus avant de quoi il s'agit. En tout cas, on était avec Daniel Facerias au début de cette émission, donc musicien et artiste et fondateur de la diaconie de la beauté avec son épouse Anne. Et autour du plateau, il y a aussi donc le père Vincent Gallois, curé de la basilique Saint-Cernin de Toulouse, accompagnateur de cette diaconie de la beauté. Mireille Racine, qui est peintre et qui fait partie de cette diaconie de la beauté à Toulouse, et Marine de Charin, comédienne, chanteuse et autres compétences et talents, qui est donc la coordinatrice de cette diaconie de la beauté à Toulouse. Alors Marine, vous n'y étiez pas, mais je vous pose une question piège. Vous voyez,
ça commence bien.
Il y a eu une rencontre avec le pape. Récemment, de la diaconie de la beauté, enfin un peu informelle, une manière de reconnaissance, je ne sais pas si c'est reconnaissance officielle.
Alors, j'y étais pas, donc je ne raconte que ce que je sais sans l'avoir vécu. À l'occasion d'un festival de diaconie de la beauté organisé à Rome, à l'image de celui dont vient de parler Daniel, qui a lieu tous les ans à Cannes, ils ont eu la grâce, la chance, le cadeau d'être reçu, non pas de manière personnelle, mais avec d'autres pèlerins, par le pape François, en audience, et qui a nommé et béni la diaconie de la beauté, donc ce projet, et les artistes qui en font partie. Ça, c'était une première, et c'est vrai que Anne était bouleversée et heureuse évidemment de cet événement.
Voilà, alors je la cite, hein, c'est la première fois que le Saint-Père parle de la diaconie de la beauté et comme toutes les premières fois, il y a une véritable émotion. Donc c'est Anne Facerias, la femme de Daniel Facerias qu'on avait au début de l'émission. Alors la diaconie, ça se décline, si j'ai bien compris en fait, comme c'est plus des artistes que des ingénieurs qui les fréquentent,
ah oui,
il n'y a pas d'organisation systématique en France. Toujours est-il qu'il y a des diaconies un peu partout en France ou dans différents lieux. Vous pouvez nous dire où est-ce qu'il y en a
Alors il y a des diaconies. Il y a une diaconie à Paris sous le parrainage et la présence de Michael Lonsdale, de Brigitte Fosset très régulièrement, de Marie-Christine Barrault. Il y a une diaconie à Toulon. Il y a une diaconie à Toulouse. Depuis là, c'est la quatrième année, donc depuis trois ans. Il y a depuis récemment, avant l'été, une diaconie à Nantes. Une autre à Nice, ça se développe, hein, ça pousse comme des champignons. Et puis, il y a une diaconie à La Réunion depuis un an, depuis l'été dernier.
D'accord, et c'est pour ça qu'on était en ligne, je ne sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, on était en ligne depuis l'île de La Réunion avec Daniel Facerias.
Voilà, alors la raison, c'est plutôt que la diaconie est née à La Réunion parce que les Facerias y sont, en fait.
On s'en doutait. En tout cas, pour Toulouse, il y a, comment dire, Monseigneur Le Gall a joué un rôle dans la mise en place,
au début
de cette diaconie. Est-ce que vous pouvez nous dire...
Comment elle est née ici?
Oui, comment elle est née, puis quel était un peu le rôle de Monseigneur Le Gall, qui, semble-t-il, était proche depuis le début.
Alors oui, il y a un lien d'amitié très fort entre les Facerias et Monseigneur Le Gall depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, je crois. Et moi, j'avais rencontré Daniel et Anne il y a 20 ans dans le cadre de mon école d'art dans laquelle je me formais. Et Daniel et Anne étaient venus à cette époque. Et on avait eu un lien tout naturel à ce moment-là. Et on s'est retrouvés après des années par le biais d'un ami commun. Et c'est à ce moment-là qu'Anne m'a dit « Mais attends, en fait, je t'attendais. » Et on a ce projet et ce désir de lancer la diaconie de la beauté, donc qui existait déjà depuis 2011 dans d'autres villes. On voudrait la lancer à Toulouse. Est-ce que tu es partante pour t'engager dans ce projet, dans cette belle idée ? Et donc, voilà, ça s'est lancé comme ça.
Alors en quoi ça consiste ? C'est quoi la diaconie de la beauté ? Si on rentre dans les choses, pour les artistes qui nous écouteraient ou les gens qui auraient envie de venir à certaines occasions vous découvrir.
Concrètement, ici à Toulouse,
qu'est-ce que vous y faites ou...
On y fait plein de belles choses, hein Mireille. Hein on se rencontre tous les mois. Alors c'est un choix qu'on a fait, mais il y a quand même une proposition par Daniel et Anne d'une structure qui peut être renouvelée dans chacune des villes, même si chaque diaconie fonctionne de manière autonome. Nous, on se retrouve tous les mois, un dimanche soir par mois. Au début, les deux années premières, ça s'est fait chez les Dominicains. Et puis depuis, pour la deuxième année, là, c'est à Saint-Cernin avec Vincent. Et donc, on se retrouve pour un temps spirituel, parce qu'il y a quand même un but qui est essentiel de nourriture spirituelle dont les artistes ont besoin et qu'on vient chercher, dont on a soif. Donc, on se retrouve pour la messe du soir. Et puis ensuite, on se retrouve pour dîner. Donc, c'est un moment à la fois convivial, mais nutritif aussi. Et là, on a demandé à Vincent cette année de nous former d'ailleurs, de nous proposer, de nous donner des lumières sur notre rôle et notre vocation d'artiste, d'art sacré ou pas. Et on a besoin de ça, nous tous, de se retrouver, de se rencontrer, de s'épauler, de se porter, de se connaître, d'avoir des projets de créer ensemble, mais aussi de recevoir. Parce que pour donner, il faut quand même être nourri. Donc, on en a...
Alors, oui, allez-y, pardon.
Oui, en effet, c'est vrai qu'il y a un temps de rencontre, de prière, lorsque nous nous réunissons une fois par mois. Alors, moi, je ne suis pas artiste.
C'est tout comme.
Il n'ose pas le dire, mais c'est...
Non. C'est contagieux, non,
non, non. Par contre, donc, on se retrouve parce qu'on prie ensemble à la messe. Et on a un temps de convivialité, mais aussi on a eu besoin d'avoir un temps de formation. Alors c'est vrai que le collectif là, que nous formons m'a demandé de partager quelques convictions que je pourrais avoir, quelques réflexions sur les artistes. ou sur l'art en général, mais c'est aussi parmi la dimension de formation, c'est le témoignage que les artistes se rendent les uns aux autres. On a visité plusieurs fois maintenant, on était chez vous Mireille, hein, chez d'autres encore, l'atelier de certains artistes, hein, et qui nous ont présenté aussi la manière dont ils abordaient leur travail, la manière dont ils le mettaient en place, ce qui les nourrissait. Et nous alternons ainsi une fois ces visites d'ateliers. Et c'est intéressant pour un artiste de voir comment un autre artiste travaille. Donc il y a vraiment cette reconnaissance mutuelle à laquelle nous efforçons. Et ensuite, il y a aussi le regard d'un prêtre sur la vie artistique, sur l'art, sur le travail et sur la fonction de l'art, de l'artiste dans ce monde et dans l'Église.
Alors, si j'ai bien compris, vous avez 5 piliers, la prière, le témoignage, la formation, la solidarité et l'annonce. Et alors, j'ai vu un truc. La solidarité, apporter un soutien humain, spirituel et économique. C'est-à-dire, vous allez jusqu'à vous soutenir les uns les autres, y compris financièrement, s'il faut.
Alors là, concrètement, ça ne s'est pas vraiment présenté chez nous.
Pas encore.
Non, mais je dis ça en plaisantant, ça dit une intention, en tout cas.
Ça dit une intention d'aider jusque dans le moindre détail concret ceux qu'on peut aider. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de...
Je dis ça en plaisantant parce que
on n'a pas expérimenté ça encore.
On se doute que la vie d'artiste n'est pas une vie simple, et donc peut-être que particulièrement, les artistes sont des personnes qui ont besoin d'être entourés, d'être.
Oui, c'est vrai. Comme disait Daniel, il y a une solitude de l'artiste qui sont parfois des êtres un peu loufoques à part, et qui sont des très mauvais gestionnaires commerciaux et communicants souvent de leur art. Et ils ont ce besoin d'être aidés à ce niveau-là parce qu'ils ont des belles choses à donner, à transmettre, à faire passer. Ils n'ont pas toujours les moyens techniques et concrets et économiques aussi, mais parfois c'est d'ordre... Il y a aussi des fragilités d'ordre personnel. Il y a un soutien réciproque, je pense, aux fragilités les uns des autres. Et je pense que chez l'artiste, c'est quelque chose d'assez marquant de ce point de vue-là. Pourquoi est-ce que l'artiste serait plus fragile qu'un autre? Je ne sais pas, mais n'empêche, on le constate. On le constate, je crois qu'il y a des failles.
Parce qu'il fait passer plus
la
lumière.
Il y a des failles qui, voilà, comme le vase fêlé qui fait passer le... Oui, je pense qu'il y a une fragilité chez tout être humain, mais chez l'artiste, il y a peut-être une sensibilité exacerbée qui donne ce besoin de transmettre et qui fait qu'on a besoin les uns des autres encore plus. Alors, c'est pas que financier.
L'artiste est un homme sur la brèche, quelque peu. Et parce qu'il est sur la brèche, il est sensible à ce monde, à ses contemporains, et finalement, quelque part aussi, à Dieu.
Qu'est-ce que ça veut dire, sur la brèche?
C'est souvent des... Alors, de façon un peu rapide, on pourrait dire un peu des personnes des ou blessées ou sensibles à l'extrême. Et parce qu'elles sont dans cette sensibilité, eh bien, elles perçoivent, j'ai envie de dire, que c'est comme disons, plus de percepteurs que d'autres. Et c'est ça, la fonction de l'artiste. C'est une personne qui disait, on en avait parlé la dernière fois, l'artiste, le peintre spécialement, a une mission de montrer le réel. En gros, le monde est rempli d'aveugles, il y a quelques artistes qui ont des yeux et qui nous montrent le réel et qui nous font toucher le réel. Eh bien, l'artiste chrétien nous montre la présence de Dieu dans ce monde. Il l'a fait advenir et il nous fait advenir à la compréhension à sentir et ce monde et Dieu en ce monde.
Difficile tâche, non, d'accompagner les artistes, tu imagines, c'est...
Pouf, oui, mais c'est une tâche agréable, heureuse.
Il le fait très bien. Non, mais en fait, on est gentil, on est fêlés, mais on est hyper gentil quand même.
Ne vous caricaturez pas trop. Alors, c'est pas une émission sur chacune de vos œuvres, mais peut-être que vous pouvez dire un mot de ce que vous faites, qu'est votre activité artistique. Mireille Racine, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Donc, vous êtes peintre, je disais, vous animez des ateliers pour enfants, adultes et personnes en difficulté. Si vous deviez nous présenter, non pas de manière marketing, mais...
Non, ça, je ne sais pas trop faire.
nous présenter un petit peu l'artiste que vous êtes et vos activités.
Ouais, bien moi-même, je suis arrivée à contacter ma fibre artistique, à oser la contacter à la fin de mes études secondaires. Je ne croyais pas pouvoir faire un chemin dans cette direction, donc je serais sagement allée à la fac de lettres à l'époque, mais j'ai demandé un an sabbatique pour tenter de rentrer aux Beaux-Arts et de voir si je pouvais y faire quelque chose. Donc j'y suis rentrée en rasant les murs, et puis j'y suis restée en élève, et puis j'y ai même été convoquée en professeur, et puis ça s'est fini. Et quand j'ai eu fini mes études, donc en 73 à peu près, j'ai ouvert un premier atelier. Et depuis, ben, j'y suis toujours. Alors l'atelier a changé d'endroit. Maintenant, je suis dans un lieu magique au Pont des Demoiselles. Ah oui, donc c'est, voilà. Et c'est très important. Parce que tout ce que viennent de dire Marine et le père Vincent, je partage complètement ce qu'ils viennent de dire. Et j'arrive à réaliser ce côté difficile hein, de vivre dans son art, de le partager, de faire vivre une famille. C'est pas toujours évident, c'est pas complètement gagné, mais je réalise ce que je ressens profondément et je crois que je ne pourrais pas vivre autrement. Mmh. Hein, voilà.
Quand vous dites, donc, vous le dites pas, mais je le dis à votre place, vous animez donc des ateliers d'enfants, mmh. adultes et personnes en difficulté. Vous mmh. pouvez nous dire un mot sur le dernier. Qu'est-ce que vous essayez de leur faire vivre ou,
eh bien, tout à l'heure, ce que Vincent disait, c'est cette sensibilité à la vie, à l'autre. Et je pense que de sentir la personne, quelle qu'elle soit, aussi bien une qui est complètement intégrée dans la société mais qui a ses fragilités de tout être humain et celle qui peut être en marge de la société et dont la sensibilité est exacerbée. Donc ce genre de choses je l'ai fait pour déjà il y a plusieurs années dans une association de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide. Donc c'était des personnes en difficulté et par des activités, on arrivait à leur redonner un rythme de vie, se rendre compte que, en fait, ce qu'on construit dans un dessin, dans un tableau, c'est une construction, c'est une organisation et ça correspond à la vie. Tout ça, c'est relié. Donc voilà ce que je peux faire et en fait que je fais quelle que soit la personne.
Alors, vous faites ça, entre autres, alors, avec des gens du Carmont.
Alors,
vous pouvez nous en dire un
oui,
mot.
Oui, depuis 4 ans, j'avais été sollicitée par la sœur Suzanne de la Bonne Nouvelle. Et,
voilà, qu'on connaît un peu ici à
voilà,
Toulouse.
Hein,
on a fait des émissions sur elle. Donc, c'est des religieuses qui vivent avec les personnes du Carmont.
Les plus démunies, des personnes du Carmont. Et ces chrétiens du Carmont, ça fait plusieurs années qu'on leur fait réaliser un chemin de croix qui est pour Saint-Étienne. Donc d'année en année, il y a des personnes qui sont encore là, qui avancent, et c'est très joli de voir ce chemin, hein, parce que à travers leur réalisation, qui ont été préparées parce que les sœurs les ont amenées à réfléchir, à exprimer leur vie. Donc tout ça, on le rassemble et on le met dans les 3-4 stations du chemin de croix. Et c'est quelque chose d'extrêmement émouvant.
À la cathédrale Saint-Étienne.
À la cathédrale Saint-Étienne, tout à fait.
Marine, j'allais dire, vous aussi faites-vous de la pub, mais c'est évidemment une plaisanterie. Mais qu'est-ce que vous diriez de votre art si vous deviez, je ne sais pas, nous décrire, je ne sais pas comment on dit, votre activité artistique ou... Alors, vous ne pouvez pas chanter parce qu'il paraît que vous avez des problèmes aux cordes vocales, mais...
Qu'est-ce que je dirais ? Moi, j'ai une formation. J'ai fait une école d'art sacré, donc c'est vrai qu'on a, on avait une formation en théâtre qui était une formation classique, mais en chant pas classique du tout. On a beaucoup chanté byzantin pendant des années. On a chanté du corse aussi. Voilà. Mais après ça, je me suis à la fois... j'avais besoin de donner, enfin d'être transmetteur par l'art sacré, mais aussi par l'art profane. Parce qu'on touche des sensibilités différentes et que ce lien avec les gens qui sont là, il est tellement important au niveau artistique, en tout cas dans le théâtre et dans le chant, que j'avais vraiment besoin d'une palette un peu ouverte. Donc on monte des concerts sacrés, mais aussi des spectacles profanes. qui allie en général le théâtre et le chant et la musique. Donc ça peut être des duos avec un pianiste, ça peut être des trios. Il y a des textes que je donne avec des musiciens différents, donc qui sont donnés de manière différente.
Et vous avez donné un spectacle récemment dont on a parlé à l'antenne. Vous pouvez peut-être redire son nom. C'est
celui
qui va être redonné bientôt.
Alors, il y a un spectacle qu'on a donné au mois d'avril, qu'on a monté avec Marie Dillon Schneider, avec qui on avait déjà monté Passion juste, Résurrection.
Qui est-ce, juste pour ceux qui ne connaissent pas?
C'est une, elle est chef de chœur. C'est une amie de chœur, d'ailleurs. On a monté donc Passion Résurrection avec elle, qui a été donnée une quinzaine de fois sur Toulouse, à Lourdes et à Cannes, avec Michael Lonsdale au festival de mai dernier. Et là, on en a monté un autre qui s'appelle Me Voici, à partir d'un solo pour clown de Fabrice Hadjadj.
Donc, pour résumer, philosophe qu'on a reçu à cette antenne.
Voilà, extraordinaire.
Personnage, oui.
Elle a une plume à la fois drôle. C'est de la métaphysique par le rire. Et extraordinaire, ce texte. Et il prend à partie les gens. Il y a une énergie qui est complètement hors du commun. Et on y a associé des textes d'Isaïe et des chants avec des musiciens, violoncelle, tambourin, hautbois, orgue. Voilà. Et on le redonne à Saint-Cernin le 27 novembre.
D'accord.
Prochain.
L'annonce est faite et on le redira à la fin. J'avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est une question piège ou pas, mais c'est une des marques de fabrique de cette émission. Mais est-ce qu'il y a des artistes non chrétiens qui viennent? Comment la diaconie s'y prend? Vous disiez c'est un peu, il y a quand même une double intention si on entend Daniel Fasserias au début. Oui. Comment on s'y prend?
La diaconie de la beauté est ouverte aux artistes qui veulent entrer en dialogue avec l'Église. Je crois que c'est ça. Après, on ne demande pas le certificat de baptême.
Non, mais, vu de loin, on se dirait aujourd'hui que du coup, vous ne devez pas avoir forcément grand monde qui tape à la porte. Alors, est-ce que c'est des a priori
Ce qui est intéressant de ce que disait Daniel, c'est qu'il y a 30 ans, l'Église à Paris avait une audience auprès d'artistes renommés. Et que peut-être aujourd'hui, cette audience de l'Église a disparu. Mais je pense que la diaconie peut être aujourd'hui, ici, maintenant, un lieu pour que des artistes qui ont envie de réfléchir à la portée spirituelle de la mission qui est la leur, de leur art, eh bien, un lieu de dialogue, de rencontre, et aussi, évidemment, l'Église a accompagné les artistes depuis son existence, depuis le début. Depuis le début, elle a eu recours aux artistes. Et les artistes ont puisé dans le mystère de la foi aussi une inspiration profonde. Et il me paraît important, c'est un peu un des buts que la diaconie peut avoir, de retrouver ce dialogue, que ce soit un lieu de dialogue de la foi et de l'art des artistes avec l'Église.
Et vous y arrivez? Est-ce qu'il n'y a pas des montagnes à soulever? Est-ce que c'est des préjugés que de dire ce que j'ai dit?
Des montagnes à soulever, je pense qu'il y en a partout, tout le temps, déjà en nous, pour commencer. La diaconie, elle est ouverte. Personne n'est obligé d'y venir. Je pense que ceux qui viennent, ils y trouvent en tout cas de la chaleur humaine, de la joie et une vraie prise en compte de ce qu'est l'autre, au-delà de ce qu'il peut montrer. Et je pense que c'est ça aussi le chrétien, c'est celui qui a un regard neuf, ou qui essaye en tout cas de regarder l'autre. À travers les yeux du Christ. Mais je pense que la diaconie, tout le monde peut venir y trouver quelque chose. Tout le monde n'a pas envie, donc on ne sera jamais des milliers. Alors, c'est différent aussi d'abord dans les villes, selon la manière dont elles fonctionnent. Par exemple, au Festival de Cannes, on touche des gens très divers. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens, qui viennent parce que ça les étonne de voir que cette église est ouverte en face du palais, que des spectacles s'y donnent, des concerts d'un autre genre auxquels ils n'ont pas forcément l'habitude de venir. Et donc, on touche tout genre de personnes, des gens qui sont très loin de l'Église, des gens qui sont parfois anticléricaux, des gens, mais qui sont touchés parce qu'il se passe quelque chose d'humain, de lumineux, de tendre aussi. Il y a de la tendresse, il y a de la douceur et tout le monde a besoin de ça. Je pense que l'attraction, elle se fait
L'annonce
par
est
cette simplicité-là.
En tout cas, l'annonce est lancée aux artistes qui écouteraient l'émission et qui voudraient rejoindre la Diaconie de la Beauté, voilà, que vous ayez la foi ou pas.
Bienvenue.
La Diaconie de la Beauté vous accueille, on va faire une deuxième pause et puis après on va continuer dans cette découverte de la Diaconie et peut-être plus profondément, même si on en a parlé, sur ce que l'artiste dit de Dieu et vice-versa.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà une émission donc ce matin sur la Diaconie de la Beauté, à la découverte de la Diaconie de la Beauté. Si par hasard vous ne prenez l'émission que maintenant, autour du plateau, il y a Marine de Charin qui est donc coordinatrice de cette Diaconie de la Beauté à Toulouse, artiste, Mireille Racine, de même artiste et membre de cette Diaconie, et puis le père Vincent Gallois, curé de la Basilique Saint-Sernin de Toulouse et accompagnateur de cette Diaconie de la Beauté. Alors, pour cette dernière partie d'émission, peut-être un petit peu plus avec vous, père Vincent Gallois, mais évidemment les artistes sont...
On a le droit.
Vous avez le droit. On a parlé un petit peu, on va dire, en filigrane le long de cette, tout au long de cette émission de la vocation, de ce que dit l'artiste de Dieu. Donc je me suis plongé dans la lettre du pape Jean-Paul II aux artistes, voilà, qui pour les artistes, semble-t-il, chrétien est un peu connu. Et je citais ce matin en introduction de l'émission, en faisant du teasing, cette phrase, l'artiste divin, alors là évidemment il parle de Dieu, avec une complaisance affectueuse, transmet une étincelle de sa sagesse transcendante à l'artiste humain, l'appelant à partager sa puissance créatrice. Quelle vocation, on a envie de dire. C'est pas rien qu'on a l'impression que Dieu passe d'abord par un prisme que seraient les artistes. Alors
c'est... Il passe aussi par ce prisme-là. Le Seigneur passe par bien des prismes, celui de l'intelligence notamment. Et c'est pour ça que l'étude est une chose importante. Il y a des prophètes qui ont une grâce particulière, grâce surnaturelle pour parler. Et puis il y a aussi la vocation particulière des artistes, qui ressemble souvent un peu à celle de prophètes, lorsque ils ont cette grâce de révéler le cœur de l'homme, de révéler le projet de Dieu. Vraiment, je pense que lorsqu'un artiste est capable de montrer, de faire sentir l'éternité des choses, la profondeur et le réel, alors là, on a quelqu'un qui est vraiment dans cette dimension de l'expression de la création tout entière. Alors, les plus grands sont justement ceux-là. Quand on lit Shakespeare, c'est véritablement un grand auteur qui nous dit depuis son époque les vérités éternelles sur l'humanité. Et son œuvre est pétrie à la fois de thèmes bibliques, de thèmes mythologiques et d'une connaissance aiguë du cœur de l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le lit encore et on le présente encore. Les grands peintres aussi révèlent cela. Et l'Église a toujours sollicité des peintres, non pas simplement pour faire des jolis trucs, mais pour dire, dans le langage de leur époque, le message éternel.
Et est-ce à dire que Dieu passe d'une certaine manière, malgré eux, à travers les artistes? Parce qu'il y a des artistes tout au long de l'histoire, même qui ont travaillé pour l'Église, qui avaient des vies, de prime abord, pas d'enfants de cœur, et pourtant Dieu semblait passer
même
à travers eux.
Même des papes ont eu des vies qui n'étaient pas des vies d'enfants de cœur.
C'est-à-dire qu'il y avait des papes artistes, alors là, on n'en sort plus.
Non. C'est dire que le bon Dieu, il passe comme il veut, avec qui il veut, voilà. Et même si l'artiste a une vie de patachon, il peut avoir, à travers son art, une grasse expression. Je pense un des plus grands peintres, c'est le Caravage.
J'allais le citer, mais...
Ben voilà, bon, qui...
Pourquoi vous le citez? Vous pouvez dire peut-être un mot.
Parce qu'il était bagarreur, colérique, il courait les garçons, il est mort assassiné, je crois. Donc, si vous voulez, il avait une vie vraiment qui était dans les marges de son temps, dans les marges de toute la société, malgré les protections qu'il avait, la protection du pape, à ce moment-là. Mais cet homme-là, qui était véritablement une vie éclatée, est un des plus grands. Un des plus grands qui a exprimé le mieux qui a inventé des techniques et qui a exprimé le mystère du Christ. Et la révélation du Christ, par exemple. Je pense un autre plus contemporain qui lui ressemble quelque peu, c'est Pasolini. Un grand cinéaste, alors il confessait la foi marxiste à un moment donné, un Italien, mais quand vous voyez la manière dont il a filmé, par exemple, quand il a fait le film L'Évangile selon Saint Matthieu, où il a voulu être d'une grande fidélité au texte et en même temps une grande simplicité, il a un traitement, alors même qu'il se disait athée, qui est révélateur du message du Christ. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas été quelque part l'instrument de la grâce du Seigneur. Et d'autres œuvres de ses films en parlent également.
Et Oui,
est-ce que, je me demande si, je pense qu'il y a quelque chose chez l'artiste qui a besoin de se mettre à disposition de cette lumière, quelle que soit sa vie dissolue de patachon ou de coureur de jupons. Je pense qu'il y a un moment où, quand il crée, il y a comme une ouverture de sa sensibilité et de ce qu'il a de profond en lui qui se met à disposition. Parce que je pense qu'il y a un réel désir de l'artiste d'être transmetteur, de faire passer, d'être comme un véhicule de quelque chose de plus grand qu'il habite. Alors, il ne le nomme pas Dieu s'il est athée. Mais il en a conscience de cet absolu qu'il dépasse, de quelque chose de transcendant qui est très, très
appel,
fort.
De cet appel, en fait,
et de cet appel, de ce besoin. Mireille, tout à l'heure, elle disait, j'aurais pas pu ne pas faire, au final, ce chemin. Elle avait besoin d'exprimer par la peinture ce qu'elle était. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une part de l'artiste qui ne peut pas ne pas s'exprimer. Il y a un besoin, c'est impérieux, c'est nécessaire, c'est vital. Enfin,
c'est sa vocation.
On pète un plomb quand on ne le fait pas. On en a besoin. Et je pense que par ce passage-là, il y a une vraie ouverture profonde qui, même quand on est un petit artiste et qu'on n'est pas Pasolini, oui. Je pense que Vincent Van Gogh se sert de cet endroit-là qui est
Alors, il y a ouvert. Ce que l'artiste va ressentir dans sa vie, dans ses brèches, hein, comme je le disais tout à l'heure, et qui va mettre en œuvre. Mais de l'autre côté, et c'est un petit peu aussi le sens de la diaconie de la beauté, puis le rôle de l'Église, l'Église appelle. L'Église appelle des artistes pour qu'aujourd'hui, ils nous aident à dire dans le langage de notre temps, parce que le propre de l'artiste aussi, c'est un être qui a le langage de son époque, ou peut-être même parfois de l'époque de demain. Mmh. Et l'artiste vient, alors à tâtons, avec plus ou moins de réussite selon les uns ou les autres, mais il vient nous exprimer aujourd'hui le mystère de la foi. C'est pour ça que j'ai sollicité plusieurs fois des artistes pour le chemin de croix qu'on fait régulièrement à Saint-Sernin maintenant, et eh bien c'était pour qu'ils nous disent avec leur art, avec leur langage, le mystère du Christ en croix, le mystère de la passion. Donc ça, c'est cette mission-là. Et si vous voulez, cette mission de l'Église se fait le relais du travail de la grâce qu'il y a par ailleurs, et qui est à l'initiative du Seigneur, là, complètement.
Eh ben, merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler donc de la diaconie de la beauté. On donnera une date à tous ceux qui voudraient les rejoindre le 20 novembre, donc c'est à Saint-Sernin. Mmh. Donc rendez-vous le 20 novembre à Saint-Sernin à l'occasion de la fête de la Sainte-Cécile, patronne des artistes,
voilà.
En présence de Monseigneur Le Gall.
Pour une messe des artistes à 18h30.
Et puis voilà, plein d'autres choses. Vous découvrirez à cette occasion tout ce que la diaconie de la beauté propose. Merci beaucoup à nos invités d'être venus ce matin. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.